Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 576 du podcast Touch en Actuel. On était très heureux de vous retrouver pour parler du deuxième tour des playoffs NFL, le Divisional Weekend. Je préfère dire deuxième tour des playoffs, je trouve ça plus simple en français. Bonjour Victor Roulier, tu préfères dire quoi pour les playoffs?
Qu'importe, les quarts de finale, voilà, on est français.
Ouais, les quarts de finale. Ah oui, les quarts de finale. Ouais, mais non, parce que c'est les demi-finales de conférence. Sinon, j'aime bien dire.
Oui, mais c'est les quarts de finale en soi. Il y a 8 équipes.
Mais tu vois, je comprends pas pourquoi on dit divisional en fait. Parce que c'est pas les divisions qui se jouent.
Je sais pas, parce que théoriquement, c'est tous les vainqueurs de division qui se rencontrent. S'il y a zéro surprise.
Ah, tu crois?
Je sais pas.
Ah, je note pourquoi on appelle ça. Ah bah alors attends, CBS Sport, NFL Flashback. Why second round of playoff is called divisional round with a look. Je vais potasser ça. Un jour, je pourrais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est vrai que pourquoi on dit divisional alors que c'est pas des finales de division. C'est un peu. Un wild card. Bon, je regarderai. Je vais pas faire ma prépa d'émission en live, mais c'est une bonne question que nous avons soulevée dès l'intro. Comment ça va, Victor?
Je dors mal, j'ai chaud, j'ai froid, je suis stressé, comme à peu près, je pense, 8 fanbase en France. Donc,
alors, voilà. Moi, je dors mal, j'ai chaud, j'ai froid, c'est parce que j'ai la grippe, mais toi, c'est parce que t'es supporter, quoi.
Exactement, c'est une autre maladie, mêmes symptômes.
C'est un autre problème, mais pourquoi pas. Bon, en tout cas, on va revenir, évidemment, sur ces 4 matchs de playoffs qui ont lieu ce week-end en NFL. C'est le programme très simple hein, de cette émission. Le débat, on se l'est gardé pour le fauteuil. Dimanche, on parlera des trophées de la fin de saison régulière. Dans le fauteuil, ce sera avec Lucas Vola. Mais dans cette émission, on va se concentrer uniquement sur les 4 affiches de la semaine en play-off. Qu'est-ce qui va se passer? Qui va gagner? Puisque évidemment, nous détenons toutes les réponses et nous ne nous trompons jamais. Hein. Non, c'est pas du tout ce qu'on dit. Ouais. J'ai pas de répartie. Quand j'ai la crève, j'ai pas de répartie.
Je ne me trompe pas en wildcard, en tout cas.
Tu te trompes pas en wildcard. Oui, c'est vrai que. Ah oui, c'est vrai que tu es sur un bon score. J'avais oublié pour les pronos. En fait, c'est ça. Je suis en train de gagner du temps parce que je cherchais ma feuille avec les scores des pronostics. Voilà donc, en tout cas, pour le programme et pour le meublage, on va démarrer tout de suite avec les matchs de la semaine et on va faire dans l'ordre pour commencer. On est donc parti sur ce qui va se passer samedi. Je donne les scores des pronos maintenant, comme ça Victor sera heureux, parce que là je vais vous dire, il va pas arrêter de nous bassiner. Moi je vais faire don, hein. Je vais pronostiquer tout contre lui pour pas qu'il gagne, parce qu'il va être insupportable s'il gagne, je vous jure. Donc il a fait 6 sur 6 la semaine dernière, il a marqué 12 points parce qu'il y a 2 points par match en playoff. 10 points pour Lucas, 8 pour Greg, Raphaël et moi, 6 pour Raoul qui plonge, du coup 180 points pour Victor, 179 pardon pour Grégory, 178 pour moi, 173 pour Raphaël et Raoul et 172 pour Lucas. Mine de rien, Lucas, alors peut-être.
Ah bah là, il lui faut quelques surprises, mais en tout cas, la dernière place qui lui était allouée, ouais. Finalement, c'est très chaud.
Ça va être dur d'aller chercher la gang, mais clairement, il peut finir
quatrième,
voire trois.
Il y a vraiment
3,
deux groupes de trois qui semblent un peu se séparer.
Ouais, il a que 6 points de retard sur moi, c'est même pas délirant. Bon, après, voilà, il va falloir avoir un peu de bol, mais pourquoi pas. On va donc parler des matchs de samedi et commencer par celui qui aura lieu à 22h30. Encore une fois, on fait dans l'ordre des matchs. Là, ce que vous entendez, c'est vraiment l'ordre de ce qui va se passer ce week-end. Et donc, la première rencontre, ce sera celle entre les Chiefs et les Jaguars. Tête de série numéro 1 pour les Chiefs en AFC, numéro 4 pour les Jaguars. Est-ce que c'est le match le plus déséquilibré du week-end, Victor ?
Sur le papier, oui. Sur le papier, oui. Bah, les Chiefs sont plus que jamais favoris. Se reposant sur des armes qu'on connaît. Hein. La première, elle s'appelle Patrick Mahomes, qui est juste le meilleur joueur de la Ligue, par définition. Sur une super ligne offensive, sur Travis Kelce, aussi en défense sur des stars comme Chris Jones. Bah, c'est sûr qu'en termes de star power, y a un gap entre les deux. Et en plus, on est à Kansas City, qui est un stade connu pour être un peu bruyant. Hein. C'est un vrai avantage à domicile de jouer à Kansas City. Bon, c'est sûr que sur le papier, il y a un vrai favori.
27 à 17 pour Kansas City quand les deux équipes se sont affrontées en saison régulière, quasiment 500 yards pour les Chiefs. La question, elle est d'abord là, est-ce que les Jaguars peuvent ralentir Patrick Mahomes et compagnie?
Bah c'est la première question. C'est-à-dire que tu rappelais cette opposition. Après, on peut dire que la défense des Jaguars est quand même en train de monter en puissance peu à peu, même si bon, y a eu une mi-temps compliquée hein, contre les Chargers, mais de toute façon, ça a été global pour l'équipe. Mais globalement, il y a quand même, on va dire, une confiance. On l'a vu dans le match décisif contre les Titans. Il y a des joueurs qui peuvent faire des vraies actions, provoquer des pertes de balles. Hein. On pense à Allen au niveau du pass rush. On pense à des joueurs comme Cisco ou Campbell au niveau des interceptions. Il y a du matos. Mais en face, encore une fois, t'as Patrick Mahomes, quoi. Donc ça va être un vrai enjeu. Et puis la question aussi, c'est qui est capable de défendre Travis Kelce ? Parce que ça, c'est une question que beaucoup d'équipes se posent.
Et ce qui est presque flippant d'ailleurs pour les Jaguars, c'est que Kansas City avait gagné le premier match malgré 3 ballons perdus. C'est-à-dire qu'il y avait un avantage de plus 3 pour Jacksonville sur les turnovers. Comment tu peux ralentir cette attaque ? Tu disais, il faut ralentir Travis Kelce. Comment tu fais quoi ? Ou alors, tu t'essayes vraiment juste d'espérer des pertes de balles ?
Je dirais mettre la pression hein, forcément, même si avec cette ligne c'est un peu compliqué. Et puis oui, je pense que d'imiter Travis Kelce, c'est l'objectif numéro un, parce que bon, les Valdes-Scantling, Smith-Schuster, Mecole Hardman, c'est des bons joueurs hein. Enfin, c'est quand même pas la crème de la crème de la crème. Normalement, un contre un sur un bon jour, tu peux gagner ton opposition. Par contre, il faut avoir un plan contre Travis Kelce. Et il faut aussi avoir un plan, j'ai envie de dire, sur les receveurs en réception. Je m'explique, c'est que sur ces dernières semaines, les joueurs qui ont vraiment explosé, c'est notamment Jerick McKinnon, qui a reçu énormément de touchdowns, alors qu'il est théoriquement running back, mais en vrai, il joue dans un poste assez hybride. Donc finalement, en fait, ce sont pas les receveurs qui sont vraiment mis en avant. C'est plutôt cette capacité à avoir 10 cibles différentes. Donc, il va falloir être bien préparé parce que Kansas City peut proposer beaucoup de choses différentes.
Et Kansas City peut aussi proposer de la défense parce qu'ils sont que... Enfin, ils sont 11e sur les yards encaissés. Mais surtout, ils ont 55 sacks. C'est le deuxième total en NFL. C'est une défense sous-cotée un peu les Chiefs, non ?
Oui et non. C'est-à-dire que c'est un peu la défense des Chiefs telle qu'on le voit depuis des années. C'est-à-dire que quand tu regardes en statistiques pures ou en statistiques avancées, ils sont 11e, 15e, 16e, 17e, par là. Donc on va dire qu'ils sont pas bons, enfin pas extrêmement bons, mais pas mauvais non plus. Après, ouais, c'est vrai qu'ils vivent sur des sacs, ils vivent sur provoquer des pertes de balles. Par contre, ils se prennent quand même assez régulièrement des camions de yard. Ils sont pas irréprochables en red zone. Donc on va dire que c'est la défense moyenne, qui normalement est pas censée ni te faire gagner ni te faire perdre. Par contre, c'est vrai que sur un bon jour, et on va en parler parce que tu fais très bien d'évoquer le nombre de sacs, parce que le défaut principal de Jacksonville pour moi, c'est encore et toujours la ligne offensive. Et du coup, moi, je suis désolé, hein, Little, Fortner, Taylor, même Brandon Scherff, qui est censé être quand même une référence au poste de garde, moi, je trouve que ça souffre cette année. Et il y a un
moment. C'est marrant parce que statistiquement, ils ont pris que 28 sacs en saison régulière.
Ouais, mais parce que Lawrence lance très vite. Il y a quand même une volonté de lancer vite et de pas encaisser de sacs. Mais en vrai, il encaisse quand même beaucoup de pression. Donc, moi, j'ai un peu peur que, je pense pas que ça va s'illustrer avec genre 7 sacs. Mais par contre, il se peut qu'il y ait 10 ballons qu'il est obligé d'envoyer en touche parce que la pression arrive trop vite, quoi.
Comment on fait du coup pour, enfin, quel scénario on espère si on est Jacksonville? C'est-à-dire, est-ce qu'on espère un festival offensif ou est-ce qu'on espère justement ralentir tout ça au maximum?
Un peu des deux. On espère déborder la couverture aérienne de Kansas City parce que quand même il y a des cibles, hein. Christian Kirk, les deux Jones, Evan Engram, même Travis Etienne. Enfin, il y a des vraies cibles. Imposer le jeu au sol, parce que Travis Etienne, on le sait. C'est quand même un peu un baromètre de cette attaque. Et puis, bah, forcément, le contrôle de l'horloge. Par définition, si l'attaque de Kansas City n'est pas sur le terrain, elle peut pas marquer de points. Donc, c'est toujours pareil. Contrôler l'horloge, essayer de minimiser les chances de Kansas City. Et puis, bah, espérer que Kansas City soit dans un mauvais jour. Ce qu'on a vu hein, cette année, hein, on pense au match des Colts, etc. Enfin, Il y a eu des matchs, même le match des Titans qui finissent par gagner, ou le match des Chargers qui finissent par gagner. On a vu des matchs où ils mettent trois quarts temps à se mettre en jambe. Donc, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra pas perdre cinq ballons en première mi-temps.
C'est
sûr. Parce qu'en face, c'est pas les Chargers.
Ça, oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr que les ballons perdus, comme au rythme où ils les ont perdus la dernière fois, c'est sûr que ce sera, on va pas dire éliminatoire, mais oui, si 5 ballons contre les Chiefs, a priori c'est éliminatoire. Le pronostic pour ce match?
Kansas City quand même.
Kansas City pour tout le monde. Dimanche à 22, à 2h15, pardon, dans la nuit, dimanche à lundi à 2h15, 22 c'est le jour, c'est dimanche 22 janvier, à 2h15 du matin, Philadelphia Eagles, une tête de série numéro 1, New York Giants, tête de série numéro 6. Les Eagles qui arrivent d'une semaine de repos, comme les Chiefs d'ailleurs, on l'avait pas mentionné. Pour le coup, on a un échantillon de deux matchs avec ces deux équipes, puisque ce sont des rivaux de division. Victoire des Eagles à chaque fois, 48-22, oui, je te vois hocher la tête, je vais mettre le bémol. 48-22 dans le premier match, 22-16 en fin de saison. Celui en fin de saison, il compte pas vraiment, c'était les remplaçants des Giants. Donc, le 48-22, c'est celui où il y a les titulaires. Il y a 253 yards au sol pour Philadelphie. Est-ce que le plan, c'est de refaire ça, Victor?
Je dirais oui. Ce qui a changé, c'est qu'on n'a pas du tout la même défense des Giants qu'à l'époque du 48-22. Parce qu'on parle d'une équipe qui a retrouvé beaucoup de joueurs qui étaient blessés, McKinney, Ojulari, même s'il est day-to-day, Thibodeau, etc. Enfin, les petits bobos sont pensés. Et on a vu que Wink Martindale, maintenant qu'il arrive à mettre la pression avec seulement 4 joueurs, il a changé totalement sa zone. Il blitz beaucoup moins. Il joue une défense de contrôle beaucoup plus. Donc l'enjeu va être un peu différent. Je dirais malgré tout que oui, le jeu de course sera fondamental. Il faut contourner Dexter Lawrence. Déjà, si tu arrives à faire ça, ça sera pas mal. Bon, il se trouve que Lorenz est inarrêtable, mais que cette fois-ci, il aura quand même en face Jason Kelce, qui est pas un manchot, hein. Je veux dire, ça va être, pour moi, c'est peut-être le plus gros affrontement de ce match. Jason Kelce contre Dexter Lawrence. Mais oui, clairement, il va falloir, on connaît le jeu de Philadelphie, hein. Des raid options, c'est-à-dire des actions de jeu où il y a, si on va dire, deux possibilités en général, c'est-à-dire la course du quarterback ou la course du coureur. Ça risque d'être surutilisé. Après, encore une fois, on a quand même une faiblesse énorme au niveau de la défense Giants, qui est le poste de cornerback numéro 2. Et le receveur numéro 2, il s'appelle Devonta Smith, pas un manchot non plus, du côté des Eagles. Donc, je pense qu'il y aura quand même un certain équilibre entre course et passe. Mais ce qui est sûr, c'est que cette équipe des Giants, elle fait beaucoup plus peur que le jour du premier affrontement.
Les Giants, alors on va rester juste quand même sur l'opposition, l'attaque des Eagles contre la défense des Giants. Les Giants, c'est donc la 27e défense au sol de la Ligue cette saison, notamment à cause du carton qu'ils ont pris contre Philadelphie. Donc il y a clairement un truc à exploiter de ce côté-là. Et tu le disais, l'avantage de Philadelphie, c'est aussi de pouvoir passer par les airs avec Devonta Smith qui va appuyer sur leur faiblesse au poste de cornerback numéro 2. Donc comment tu peux arrêter Philadelphie? si t'es les Giants. Parce que ça, en fait, là, on est en train de dire la menace, elle vient de partout et ils sont pas forcément en mesure de la stopper.
Ben, il faut que Front 7 soit au niveau des trois dernières semaines. Et il faut que McKinney compense, McKinney donc qui est safety, compense les faiblesses de Moreau, en fait. Et, mais le seul problème que je vois pour moi, et je vais rajouter une chose à l'équation, c'est que si McKinney est derrière, en train d'aider Moreau à contenir Devonta Smith et Quez Watkins, qui s'occupe de Dallas Goedert? Tu vois, et là, on a un nouveau problème, c'est qui est capable de s'occuper de Dallas Goedert? Et là, je sais pas.
Bon, donc ça sont plutôt bons offensivement quand même pour Philadelphie.
Oui, sauf que astérisque, on connaît toujours pas l'état de santé de Jalen Hurst. Astérisque, on connaît toujours pas l'état de santé de Lane Johnson. Enfin,
alors, Jalen Hurst, il est quand même officiellement sorti de la liste des blessés.
Il est sorti de la liste des blessés, mais Sirianni a dit qu'il allait souffrir tous les playoffs. Donc, à quel niveau il va souffrir, on sait pas. Et Lane Johnson, on a vu à quel point c'est important. Lane Johnson a dit « je vais jouer », mais de toute façon, tu connais les joueurs. Hein. Si tu leur demandes, ils jouent toujours. Le coach a dit « oh là là, on va voir demain, ne prenons pas de risques ». Parce que forcément, les joueurs, si tu les laisses… Mais apparemment, il y aurait eu une erreur sur son premier diagnostic et sa blessure serait moins grave que prévu. Donc, voir, tu sais, il y a aussi beaucoup de…
Quand c'est dans ce sens-là, c'est toujours plus sympa.
Oui, oui, mais il y a toujours beaucoup d'intox entre les équipes.
Les Giants, eux, ils arrivent avec un Daniel Jones en pleine confiance. Ils vont tomber quand même sur des Eagles qui sont l'équipe qui a concédé le moins de yards dans les airs cette saison. Et surtout, 70 sacks, meilleure défense de la saison dans le domaine, de très loin. Tout à l'heure, on parlait des Chiefs qui sont à 55, qui étaient deuxième. Donc, il y a quand même 15 sacks de plus que la deuxième équipe dans le domaine. Est-ce qu'on va voir Daniel Jones retomber sur terre?
Ben, je sais pas, parce que la performance offensive des Giants la semaine dernière à contre Vikings, c'est la meilleure performance offensive de cette équipe de très loin cette saison. Ça a été bon dans la passe, ça a été bon dans la course, et ça a été l'utilisation des jambes de Daniel Jones, parce qu'il ne faut pas sous-estimer que c'est un excellent coureur. Donc honnêtement, moi je me suis retrouvé devant ce match, je pensais qu'ils avaient battu Vikings, mais à cause des pertes de balles, là je voyais Vikings perdre zéro ballon, ils gagnent quand même, je me dis waouh. Cette attaque, elle a passé un cap quand même. C'est vrai qu'elle manque de talent, notamment en poste de receveur, parfois sur la ligne aussi, mais ils ont quand même passé un cap. Après, oui, de toute façon, la clé, ça sera Daniel Jones. Faut pas lui laisser le temps de dire le terrain et faut pas lui laisser le temps de s'échapper pour courir. Donc, le meilleur moyen de faire ça, c'est de lui mettre la pression. Les Eagles, ils ont quand même 4 joueurs qui ont 11 sacs ou plus. Plus d'autres joueurs qui en ont 6 ou 7. Enfin, par définition, c'est une équipe où le danger peut venir de partout. Et je pense qu'il va falloir être agressif. Tu vas te faire punir une ou deux fois. Ok, bah, c'est comme ça, c'est la vie. Mais il va falloir être agressif pour essayer de faire ce que Jones ne fait plus cette année, c'est provoquer des pertes de balles. Jones, on sait qu'il a perdu beaucoup de ballons à une époque. C'est pas du tout le cas cette année. Mais ça va être la clé. Parce que la ligne arrière, elle va contenir les receveurs des Giants. Mais par contre, les linebackers, par exemple, est-ce qu'ils vont contenir un Daniel Jones qui commence à courir partout? J'en suis pas sûr. Donc attention, attention, il va falloir mettre une pression dès le début.
Après, oui, c'est sûr que Daniel Jones perd beaucoup moins de ballons cette année. Donc il faudra le faire retomber là-dedans. Personne n'est arrivé à le faire pour l'instant. Non. Tu le disais, il va falloir être agressif avec lui, il va falloir quand même aussi blinder un petit peu la boîte contre Saquon Barkley. Tu préfères quoi, blinder contre Barkley et vivre avec quelques fulgurances de Daniel Jones?
Ah, moi, je blinde la boîte pour limiter Jones le coureur et Barkley le coureur, quitte à me prendre un ou deux daggers de Jones à la passe. Mais je pense que oui, faut renforcer la boîte.
Une ou deux banderilles, tu veux dire?
Banderilles, voilà, très bien, voilà, formidable.
Nous sommes français. Le scénario idéal pour les Giants, on prend du point de vue de l'outsider.
Eh ben, les Eagles ont perdu 3 fois cette saison, et par 2 fois, ce qui leur a coûté la victoire, c'est qu'ils ont perdu 4 ballons. Et en fait, les Eagles, c'est Mr. Jekyll... Non, c'est...
Dr. Jekyll
et Mr. Hyde. Dr. Jekyll et Mr. Hyde. J'allais le faire à l'envers. C'est-à-dire qu'en début de saison, ils perdaient aucun ballon, ils étaient à plus 15 au niveau de turnover, tout le monde disait « Ah, incroyable, ils perdent aucun ballon !» En attendant, ils ont perdu beaucoup en deuxième partie de saison. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mm. Que ça soit Sanders qui s'est mis en perte alors qu'il en avait perdu zéro dans l'année. Même Jalen Hurts qui a commencé à lancer des interceptions. Donc, provoquer des pertes de balles. Provoquer des pertes de balles et réussir une prestation offensive aussi bonne que ce qu'ils ont fait face aux Vikings. Pour moi, c'est la clé.
Le pronostic.
Bah, j'ai pas envie de perdre de points au niveau des pronos, mais je suis un peu superstitieux, donc je ne sais pas quoi faire. Je vais y croire et je vais mettre les Eagles quand même. Mais j'ai peur de porter le mauvais œil.
Alors, si ça peut te rassurer, le mauvais œil n'existe pas.
Ouais, je connais cette théorie. Ouais.
Je pense que ce que tu vas faire là n'aura aucune influence sur le match.
C'est possible.
je me mouille un peu, hein, mais je pense.
Mais tu sais que moi qui suis totalement athée et en dehors de considération de sorcellerie et tout, j'ai des trucs comme ça. Je ne regarde jamais un field goal. Je n'ai jamais regardé un field goal des Eagles. Parce que je pense que si je regarde, ils le loupent. Tu vois, il y a des trucs comme ça, c'est faut pas chercher.
Ok, je ne savais pas pour cette histoire de field goal, mais très bien. Très bien, très bien. Bon, en tout cas, Eagles pour tout le monde. Petit jingle et la suite. It's time, baby. Make it special tonight. Make tonight special. It's our night and it's our division. It's our time to go win it. We're gonna start fast and finish strong. Yes, sir. We're gonna work on three. One, two, three, work. On passe au dimanche, un dimanche qui devrait être marqué par plein de jolis, jolis matchs et surtout des matchs très incertains. On vient de pronostiquer à l'unanimité, vous allez voir que ce ne sera probablement pas le cas dans les deux à venir. En tout cas, je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai que les deux premiers matchs, Chiefs et Eagles, c'est à l'unanimité de toute la rédaction. Là, ça ne va pas être le cas. Dimanche 22 janvier à 21h. Attention au changement d'horaire, hein, ça bouge un petit peu. Donc là, on est sur du 21h maintenant. Il n'y a plus rien à 19h jusqu'à la fin de la saison. Donc le fauteuil passe à 19h30, je vous le rappelle encore une fois. Bills, tête de série numéro 2, Bengals, tête de série numéro 3, ça se passe dans la conférence AFC. On s'y attendait hein, quand même à cette affiche, très très belle affiche de l'AFC comme prévu, même s'ils ont eu beaucoup plus de mal que prévu, mais ils sont là. C'est aussi le match qui avait été arrêté par le malaise cardiaque de Devin Hamlin, Damar Hamlin, pardon, je ne sais pas pourquoi Devin, de Damar Hamlin, donc on se retrouve aussi pour ça. Deux équipes, encore une fois, qui ont eu plus de mal que prévu face aux Dolphins pour les Bills et face aux Ravens pour les Bengals. Lequel des deux t'a le plus inquiété dans ces matchs un peu au raccro ?
Cincinnati. Et pas forcément pour la prestation, mais parce que on le sait, le baromètre de Cincinnati depuis 2 ans, c'est une offensive. Et une offensive qui avait beaucoup mieux cette année. Ils ont perdu de tackle droit Lael Collins il y a quelques semaines. Et là, maintenant, ils ont perdu coup sur coup Kappa, le meilleur garde, et Jonah Williams, de tackle gauche, qui sont tous les deux incertains pour ce match, qui joueront peut-être, mais probablement pas à 100%. Et du coup, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on en revient à... Alors, bien sûr, ça n'a pas empêché Burrow d'emmener Bengals au Super Bowl hein, l'année dernière, mais on en revient au fait que si tu as un quarterback qui est constamment sous pression... t'as potentiellement un problème. Donc, moi, c'est vraiment cette ligne offensive des Bengals qui m'inquiète beaucoup, même si, évidemment, voilà, t'as Burrow, t'as Chase, t'as Boyd, t'as Higgins, t'as Mixon. Bon, t'as des stars pour faire avancer le ballon, hein, même sur des yards après réception, etc. Mais malgré tout, c'est quand même l'équipe qui subit le plus à des blessures entre les deux.
Je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que les blessures m'inquiètent. Après, honnêtement, sur les prestations, je suis plus inquiet pour Buffalo, au sens où je trouve que Cincinnati, des fois, a tendance à jouer au niveau de l'opposition, c'est-à-dire en bien comme en mal. Donc, je m'inquiète pas trop pour eux pour revenir à ce niveau-là. Alors que Josh Allen, c'est 5 interceptions sur les 3 derniers matchs. Et ce qui est un peu étrange, c'est que les Bills sont toujours deuxième attaque et deuxième défense statistiquement dans la ligue. Donc, ils sont censés être très forts sur le papier quand t'es 2-2. Bon, a priori, voilà. Et pourtant, je les trouve toujours pas impressionnants. Et je sais pas si ça se résume à ça, mais... Je trouve que ça manque encore. Alors, Gabriel Davis sort d'un bon match. Il était à 113 yards, donc voilà. Mais je trouve quand même que ça manque de régularité autour de Stephon Diggs et que ce sera, a priori, quand même un des facteurs X. Je trouve que Joe Burrow a plus de monde autour de lui, en dehors de ses blessures sur la ligne offensive.
Oui, c'est sûr que le côté... perte de balle et notamment interception dans la end zone, à un moment, c'est pas que un accident de la semaine dernière, quoi. On l'a vu face aux Vikings, on l'a vu 4 ou 5 fois cette saison. Ouais. On rappelle que Josh Allen est top 3 des quarterbacks qui ont lancé le plus d'interceptions hein, cette saison. Donc, oui, c'est inquiétant. Je pense que s'ils perdent 3 ballons comme ils l'ont fait face aux Dolphins, ils perdront le match. Après, j'ai été un peu rassuré par Gabriel Davis qui a, j'ai l'impression qu'il se réveille en playoff, lui. Hein. On l'a vu l'année dernière avec les 4 touchdowns contre les Chiefs. Et là, d'un coup, bam, on est en playoff, il fait son 115 yards, 7 réceptions et tout. T'as l'impression que c'est un joueur galvanisé par l'enjeu, on va dire ça comme ça. Donc il y a des cibles. Après, je suis toujours pas convaincu par le jeu de course, même si c'était pas dégueu hein, contre Miami, bien au contraire. James Cook monte en puissance, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Ouais. Parce que personnellement, c'est mon préféré des deux frères Cook. Je pense que c'est le plus talentueux des deux. Voilà, je pense qu'il va falloir un gros match de James Cook pour un peu soulager Allen, qui doit plus courir, à mon avis, et prendre moins de risques avec son bras. Oui, t'as un gros bras, bonhomme. Oui, tu peux lancer des bombinettes n'importe où sur le terrain. Mais est-ce que ça vaut le coup, je pense à interception à 17-0, là? Est-ce que ça vaut le coup de prendre des risques inconsidérés plutôt que de jouer en bon père de famille? Bah, pas toujours. Parfois, t'es récompensé, mais pas toujours. Donc, être un peu plus intelligent dans l'approche de jeu aussi.
Ben, c'est ça. Je trouve qu'il y a plus de lacunes de ce côté-là. Et je sais pas, ça m'inquiète un petit peu plus. Et sur la dynamique, quand même, Cincinnati a gagné ses 9 derniers matchs. Et en termes de défense, c'est laquelle la meilleure défense pour toi? Au-delà des stats, du coup, parce que statistiquement, oui, c'est celle des Bills.
Alors, sur le terrain, c'est... Enfin, sur le papier, c'est celle des Bills, pour moi. Mais il y a plusieurs absences, dont celle de Micah Hyde, qui me fait très peur. Parce que pour moi, la défense des Bills, et tout le monde ne sera peut-être pas d'accord, mais elle repose sur Matt Milano, Micah Hyde et Jordan Poyer. Pour moi, c'est les 3 joueurs qui cimentent cette équipe. Et bon, Milano est très bon, il a été très bon en wild card. Poyer est là et il fait son travail, mais l'absence de Micah Hyde fait mal. Et en effet, cette défense des Bengals, bah, l'année dernière, on disait, elle a été meilleure que prévu. Et puis cette année, elle a encore été très bonne. Seul petit bémol, c'est le poste de cornerback, où je suis convaincu ni par Tyler Britt, qui est un rookie, je suis un peu biaisé, je n'aimais pas en université aussi, mais ni par Eli Apple, et ça, je pense que le monde entier sait que Eli Apple est une buse. Hein, ça, Quoique sur un match, il y a toujours son match dans l'année où il chope un contrat parce qu'il a été bon. Mais globalement, oui, c'est une défense qui est solide, qui peut provoquer des pertes de balles. Après, non, quand même, moi, tu me demandes d'en choisir une des deux, je prends les Bills.
Ouais, moi, j'aime bien quand même ce que fait Cincinnati ces derniers temps. Là, on voit, ils ont encore été décisifs contre Baltimore. Donc je trouve qu'encore une fois, ça va être intéressant parce que c'est quand même très équilibré. J'ai l'impression que ce match est très équilibré. La moyenne de points des Bills, c'est 28,4 points par match. Est-ce que c'est quoi le point de bascule pour toi? Est-ce qu'il faut les limiter? Moi, je me disais à 24.
Moi, honnêtement, j'ai pas de point de bascule pour ce match. Il peut finir à 21-19 comme il peut finir à 46-43. En fait. Vraiment, les deux équipes sont capables de marquer 45 points, quoi. Dans un grand jeu.
Ouais.
J'ai vraiment sur ce match-là, j'ai pas ce point de bascule en fait.
Alors, je parlais de scénario tout à l'heure, je vais repasser plutôt sur un scénario. Alors, les Bills ont perdu 27 ballons cette saison, il y a que les Texans et les Colts qui ont fait pire. Pour moi, il y a une énorme vulnérabilité là-dessus. Le scénario pour les Bengals, c'est ça, c'est d'être ultra de forcer 2-3 ballons perdus et d'être ultra réaliste. Par contre, il faut être ultra réaliste.
Ouais. C'est-à-dire mais ils peuvent l'être. Hein. Je ne me fais pas trop de soucis. Ouais. Il faut la défense des Bengals de deuxième mi-temps de finale de conférence contre les Chiefs l'année dernière.
Aussi, évidemment. On passe au pronostic.
J'ai mis les Bills, mais honnêtement, c'est 50-50. Quoi.
Ouais. Moi, j'ai peur encore une fois de ces blessures là sur la ligne des Bengals, parce qu'en face, il y a quand même beaucoup de monde, il y a beaucoup de qualité, de l'expérience. Donc c'est pas évident. Je vais aller sur les Bengals justement parce que je ne veux pas que tu gagnes. Donc Là, je me jette mes forces dans la bataille, quoi. C'est-à-dire que, alors, faut pas que je fasse trop n'importe quoi, parce qu'en vrai, il restera des occasions. J'ai quoi, 2 points de retard.
Non, mais c'est double lame. C'est-à-dire que toi, tu t'attaques à moi, et si ça marche pas, t'envoies Grégory, c'est ça.
Bah, c'est ça. Faut qu'on se répartisse les rôles.
Ouais, je comprends.
Attends, je regarde. Ah ben oui, non, là, vous avez pronostiqué tous les mêmes trucs, toi et Grégory, donc.
Ouais.
Il a quoi ? Ah oui, il a qu'un point de retard. Ah bah oui, du coup, oui, il faut que il faut qu'on garde Greg en réserve pour le Super Bowl, quoi.
C'est ça.
On joue une mission sur le Super Bowl. Je vais dire les Bengals. Allez, je me lance aujourd'hui. Le dernier match, il aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi, à 00h30. C'est vraiment juste au tout début de lundi. Donc, dans la nuit de dimanche à lundi, San Francisco 49ers, Dallas Cowboys. Les Niners sont tête de série numéro 2, les Cowboys numéro 5. C'est une rivalité qui a sa propre page Wikipédia, figurez-vous, notamment grâce au fait que ces deux équipes se sont affrontées en finale AFC en 1993, en 1994 et en 1995. À la suite, Dallas s'était imposé les deux premières fois avant de perdre en 95. À chaque fois, le vainqueur de cette finale de conférence avait gagné le Super Bowl.
Ah oui, il perd en janvier 95, alors, parce que le Super Bowl, Steve Young, ouais, c'est la saison 94. Ouais.
Oui, mais voilà, ouais. J'ai pris les années des playoffs. Moi, c'est trop confusant pour moi, ces trucs-là, de dire les playoffs 2022 quand tu es joué en 2023. C'est les playoffs 2023 pour moi, désolé. Donc, ils sont joués en janvier 93, 94, 95. Donc, je disais qu'à chaque fois, ils avaient gagné le Super Bowl derrière celui qui gagnait. Est-ce que les Cowboys sont les outsiders de ce match ? Les Niners ont l'air hyper sereins. Ils semblent presque s'imposer naturellement comme favoris. Mais je sais pas, en fait.
Ouais, c'est très serré. Alors, tu me permettras juste de faire 2 minutes histoire pour dire que oui, 93-95, mais la plus grande page de l'histoire de cette rivalité, c'est The Catch, un match du début des années 80, parce qu'il fait en fait lien entre la dynastie Cowboys des années 70 et la dynastie Niners des années 80. Il y a une sorte de passage de témoin en une seule action.
C'est aussi le début de la dynastie Patriots, hein, parce que Tom Brady est dans les tribunes.
Et parce que Tom Brady regarde son premier match de sa carrière, ouais. Parce que si vous ne le savez pas, Tom Brady est un fan des Niners, hein, parce qu'on ne choisit pas l'équipe qui nous draft à la base, c'est un fan des Niners.
Oui, puis il est californien, il est du coin.
Oui. Ah bah oui, il est clairement de San Francisco. Ouais. Donc, pour revenir sur ce match, pour répondre à ta question, parce que tu détestes que je ne réponde pas à ta question, moi je ne suis pas sûr qu'il y ait un favori, en fait. Oui, la dynamique est du côté de San Francisco, oui, formidable effectif, etc., mais enfin, Dallas, formidable effectif et victoire convaincante en wild card aussi. Et globalement, je suis désolé, mais ils n'ont pas tellement à rougir de tout ça. Ils ont un quarterback, Dak Prescott, qui a alterné le chaud et le froid cette saison, ça c'est vrai. Il est d'ailleurs le quarterback qui a lancé le plus d'interceptions cette saison en ayant loupé 5 matchs. Donc c'est bien dire qu'il a eu des mauvaises passes, mais il a fait le meilleur match de sa carrière la semaine dernière. Et aujourd'hui... pardon hein, pour le blasphème, mais formidable histoire que ces 6 matchs de Brock Purdy. Mais tu me demandes demain si je préfère commencer un match avec Dak Prescott ou Brock Purdy. Je préfère commencer un match avec Dak Prescott pour l'instant. Dans 3 ans, ça sera peut-être pas le cas. Mais non, aujourd'hui, d'accord. Je préfère commencer le match avec Prescott. Donc, à partir du moment où tu as l'avantage au poste le plus important de foot américain et que tu n'as pas un effectif de manchot par ailleurs, ça s'équilibre vachement, je trouve.
En tout cas, c'est deux belles équipes parce que tu as les deux meilleures équipes de la Ligue sur le différentiel de ballon perdu-gagné. Tu as deux équipes qui sont dans le top 6 toutes les deux sur les points marqués, deux équipes qui sont toutes les deux dans le top 5 sur les points encaissés. San Francisco ne prend que 16,3 points par match, c'est clairement leur point fort, la défense. Est-ce que Dallas peut le faire ? C'est ça la question, en fait.
Bah écoute, oui, parce que pour moi, s'il y a une vulnérabilité de la défense des Niners et qui s'est vu contre les Raiders, qui s'est vu à d'autres occasions, c'est le poste de cornerback. Et mine de rien, bah, t'as CeeDee Lamb, t'as Michael Gallup, t'as Noah Brown, enfin t'as des armes. Donc je pense qu'il va falloir jouer très vertical et prendre des risques. Je le dis tout de suite. Je pense qu'il faut poser les « sur la table.
Ouais, et puis le pass rush n'est pas si terrifiant que ça au final, puisque 44 sacks, alors c'est beaucoup, hein, mais c'est 10 de moins que Dallas.
Ouais, mais beaucoup de pression. Beaucoup de pression, on est d'accord. En fait, les équipes avaient des plans de jeu adaptés pour se débarrasser de la balle vide parce qu'ils savaient que ça allait venir. Mais en vrai, malgré tout, il n'y a peut-être pas de nombre de sacks, mais il y a quand même beaucoup de pression. Et surtout, moi, je ne vois pas Elliott et Pollard comme des facteurs X, parce qu'à mon avis, la défense de course des Niners est tellement bonne que ça ne passera pas de ce côté-là. Oh. Je pense que c'est vraiment dans les airs qu'ils doivent gagner ce match.
Bon, donc ça va être aérien et rapide du côté de Dallas. En face, Brock Purdy, lui, marche sur l'eau, 3 touchdowns contre les Seahawks. Mais en face, il y a quand même Micah Parsons, Trevon Diggs. Il y a quand même de la qualité. Alors, c'est un peu une défense, encore une fois, qui vit aussi sur des gros coups. Mm-hmm. On l'a souvent dit. Est-ce qu'ils peuvent enfin déstabiliser Brock Purdy, ou alors est-ce qu'on a vraiment le nouveau Kurt Warner et qu'on est sur un run mémorable qui va rentrer dans l'histoire?
J'ai pas tellement l'impression que ça soit Brock Purdy le facteur, parce qu'en fait, on l'a vu globalement lors du dernier match, 80% de ses passes, c'est sur des mecs qui ont 10 yards de séparation, et sur des joueurs qui peuvent faire des yards après réception, parce qu'il a un touchdown longue distance, en vrai, c'est une petite passe, mais transformée en longue distance. Donc la vraie question pour moi, c'est Purdy, il va distribuer le ballon à Kittle, à Samuel, à Ayuk. La vraie question, c'est est-ce que la défense de Dallas va être suffisamment rigoureuse pour limiter les yards après réception? Parce que c'est ça l'enjeu. C'est pas tellement... Purdy complétera 70% de ses passes. L'idée, c'est que sa passe de 3 yards pour Samuel, ça devienne pas une passe de 22 yards, parce que Samuel, il est passé entre 3 défenseurs et il a mis des coups d'épaule et il est allé chercher le gros gain. Donc je pense qu'il va falloir... Et ils ont quand même un coordinateur défensif, les Cowboys, qui est expérimenté. On peut penser ce qu'on veut de Quinn en tant que head coach, mais en tant que coordinateur défensif, c'est quand même la crème de la crème. Donc, nul doute qu'il va faire en sorte de s'adapter. Il a une utilisation des cornerbacks qui est un peu bizarre, parce que parfois, tu as des joueurs qui se retrouvent inactifs, d'autres qui reviennent, etc. Enfin, d'ailleurs, Kevin Joseph, je crois qu'il a été utilisé qu'en équipe spéciale lors du dernier match. Donc il va falloir s'adapter, mais je pense que l'important, c'est d'imiter les yards après réception.
Le jeu au sol, par contre, il sera important du côté de San Francisco, parce qu'il l'est toujours. Christian McCaffrey, Elijah Mitchell, tu disais pas un facteur pour Pollard et Ezekiel Elliott. Bon, ce que je trouve peut-être un peu dur, parce que des fois Kenneth Walker a réussi quelques petites choses, mais donc du côté des Niners, ça va être évidemment un énorme atout, parce que c'est toujours le cas. Est-ce que Dallas peut réussir à ralentir ça?
De toute façon, Christian McCaffrey, c'est le facteur X, hein, côté Niners.
Ouais.
Parce que s'il sort son match à 150 yards à la course et 100 yards en réception, bonjour, merci, au revoir. Hein. C'est vraiment le facteur X par définition. Les Cowboys ne sont pas irréprochables en défense de course. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, oui, ça va être le gros facteur X de ce match. Ça, c'est clair.
Pronostic.
Je suis quand même parti sur les Niners. Là encore, plus dans l'idée de dire, voilà, je suis devant au prono, je prends pas de risque cette semaine, j'attends de voir comment ça se passe la semaine prochaine. Mais honnêtement, là encore, on est sur du 50-50.
Moi, je vais aller sur les Cowboys, justement, parce que j'en fais deux qui diffèrent au niveau des pronos, comme ça, il y en a un sur deux et ça va rester au même score. J'ai déjà tenté la semaine dernière, je pense que je vais faire ça.
Raphaël te suit sur les Cowboys.
Et puis je me dis, s'il y a égalité, de toute façon, c'est le plus âgé qui gagne, on a dit. Hein,
Bien sûr.
Hein, c'est l'aîné.
Évidemment.
On est d'accord. Mieux que ça me serve à quelque chose. Donc, Cowboys pour, tu le disais, Raphaël et moi, 49ers pour tous les autres. Pour le Bengals Bills, je n'avais pas précisé. Bengals, c'est pour Raoul et moi, et Bills pour tous les autres. Voilà pour la preview de ce superbe Divisional Weekend. Et alors, la petite explication pour terminer, parce que j'ai eu le temps, à un moment tu as dû me voir un petit peu distrait, mais j'ai voulu vérifier pourquoi on dit Divisional Round. Et bien, figure-toi, parce que à une époque, en 1967, la NFL a divisé en 4 divisions, et donc les vainqueurs des 4 divisions s'affrontaient lors du Divisional Round pour pouvoir jouer le titre NFL.
Donc j'avais semi-raison, on va dire. C'était par rapport aux vainqueurs de division.
Voilà, à une époque, ça voulait dire quelque chose. Mais ensuite, ils ont rajouté en 78 deux équipes qui n'étaient pas des vainqueurs de division pour créer le Wild Card Weekend. Et du coup, bah, ça a créé un peu le chantier. Donc, Divisional, ça veut plus vraiment dire ça, quoi.
Et maintenant, nous avons le super Wild Card Weekend.
Oui, bah oui.
Et dans 10 ans, nous aurons le giga Wild Card Weekend.
Oui. Le giga méga wildcard weekend sur une semaine entière avec une consolante, tu sais, pour les équipes qui jouent la draft et tout ça.
Et ils signeront un contrat à 17 milliards par an. D'ailleurs, entre guillemets, je ne sais pas, je pense que c'est la Fox qui a le prime time du dimanche, mais alors le Niners Cowboys en termes d'audience, ouais. Ça ouais, va être pas piqué des hannetons, celui-là.
Celui-là, il va être bon. Quand on voit, ils ont fait 30 millions hein, déjà sur le Buccaneers Cowboys le lundi soir. Là.
Non, et puis même le Eagles Giants, les gens ne le savent pas forcément, mais en termes d'audience américaine, la NFC Est, hein. C'est le mastodonte. Il y a la NFC Est et le reste. Donc un Eagles Giants, ça va être aussi énorme.
Après, forcément, hein, les marchés de la NFCS, c'est Dallas, Washington, Philadelphie et New York. Hein, donc,
Le plus petit marché, c'est Dallas, mais les Cowboys, c'est bien plus que Dallas depuis très longtemps.
Oui, voilà.
Donc, forcément, ouais. Évidemment.
Allez, les cotes de la semaine. Bon, beaucoup moins de choix, forcément, Victor. Hein, il n'y a plus que 4 matchs. Donc, donc là, c'est le moment de chercher YOLO. Les 50-50 avec la meilleure cote.
Ah non, pardon. On n'est pas encore sur YOLO, là, du coup.
Bah, alors, clairement, hein, la tendance qu'on donnait dans les pronos, elle est clairement présente aussi dans les cotes. C'est-à-dire que les Jaguars et les Giants ont des très grosses cotes. Donc, les Chiefs et Eagles sont des favoris très nets. C'est un tout petit peu plus équilibré, mais pas tant que ça sur les deux matchs du dimanche.
Moi, honnêtement, je serais d'avis. Je sais que j'ai misé Bills et Niners.
Ouais.
Mais quand je vois Bills à 1,39, Niners à 1,46, contre Bengals à 2,62 et Cowboys à 2,42... Bah, autant miser à plus grosse cote. Hein.
Bah, moi, c'est ce que j'ai conseillé aussi dans ma vidéo de la semaine. Et Bengals à 2,62 et Cowboys à 2,42, clairement, ça me semble pas délirant. Vu en effet que c'est des matchs qui peuvent être incertains. Je suis d'accord avec le fait que ces deux équipes, pour moi, sont légèrement outsiders. Après, voilà, rien n'est impossible. On a vu les Bengals au Super Bowl l'an dernier. Je pense qu'ils devaient être outsiders dans chaque match.
Ça, c'est sûr.
Où on a parié. Est-ce qu'on rajoute pour faire un combiné les Eagles à 1,24? C'est la meilleure des cotes des favoris de l'autre côté.
Ouais, ouais. Très bien.
Comme ça, ça fait 5 euros misés, 39,31 euros de gains potentiels pour un combiné Eagles, Bengals, Cowboys. Si on veut faire du YOLO, là c'est hyper simple, on met tous les outsiders. Jaguars, Giants, Bengals, Cowboys, 5 euros misés, 387,89 euros de gains potentiels. Bon là évidemment, Jaguars, Giants, Bengals, Cowboys, ce serait incroyable, hein. Mais c'est du YOLO, quoi. Parce que t'imagines, finale de conf, Jaguars-Bengals et Giants-Cowboys, ce serait ouf.
Ouais. Ouais, écoute. Giants-Cowboys me paraît beaucoup moins probable. J'ai vraiment beaucoup de mal à voir les Jaguars, en fait.
Ouais, ouais.
C'est tu vrai. Vois, s'il y a un des deux qui finit en surprise, pour moi, c'est les Giants qui passent contre les Eagles. Les oui. Jaguars qui passent contre les Chiefs, j'ai vraiment beaucoup de mal. J'aimerais, hein, forcément, amour éternel pour Doug Peterson.
C'est dur à voir.
Mais bon. Compliqué.
C'est dur à voir. Bon, voilà, en tout cas pour les cotes de notre partenaire Unibet. C'est comme ça que se termine l'épisode 576 du podcast Jean Actu. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous laisser des évaluations, des commentaires, des étoiles, tout ça sur les applis de podcast. N'hésitez pas aussi à nous soutenir sur Tipeee. Merci beaucoup, Victor.
Merci à toi. Et si vous voulez savoir qui est le nouveau Brock Purdy, rendez-vous demain dans le podcast Draft.
Ah yes, je l'ai déjà teasé dans l'émission d'hier, j'aime tellement ce titre. Brock Purdy en effet, enfin le prochain Brock Purdy pour la draft, le samedi la rétro c'est Dez Bryant, a-t-il attrapé le ballon contre les Packers en 2015?
La réponse est oui, hein, on sait tous.
Voilà, mais on parle de plein d'autres choses en plus dans ce podcast rétro, il y a du Peyton Manning, du Russell Wilson qui joue bien, du Andrew Luck, enfin voilà, c'est incroyable. Et puis on se retrouve donc, je le disais, dimanche à 19h30 sur twitch.tv/tdactu pour le fauteuil. On décernera les trophées de fin de saison, les trophées individuels, MVP, défenseur de l'année, etc. Et on vous fera voter sur le chat, donc n'hésitez pas à venir, ça va être très sympa. Ce sera avec Lucas Vola et on votera encore une fois pour tous les trophées de la saison. Merci beaucoup, Victor.
Eh bien, merci à toi, merci à tous et profitez bien de ce beau week-end.
Et ben, bon week-end à tous et bon week-end de NFL, de Divisional Weekend. Ciao, ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beastmode pour Marshall Lynch, Rocklash, Global, Beckham, Tom Brady, Quarterback, calé sur le footer.
sur Madame Irma. À la fin, on compte les points et on finit en requin.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Before Shopify, were you wondering, where are my sales at? Now you're selling with Shopify, the global commerce platform supercharging your selling. You have no problem selling online, in person, on social media, and beyond. Gary, easy on the cha-ching.
Oh, sorry, but my Shopify sales are through the roof.
Start selling with Shopify today and discover how millions of businesses around the world use Shopify to ignite their selling. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/listen. Shopify.com/listen.